enfants d'Israël. Et j'aimerais partager avec vous, un peu de notre voyage en Israël, et moi de se lever aussi, de ce qui est en Israël avec moi. Peut-être ce soir, nous pouvons avoir quelques-uns de ceux qui sont allés en Israël à vous donner un témoignage. Les gens qui nous ont fait faire ce voyage ont été vraiment très impressionnés. Nous étions vraiment très touchés par le privilège du ministère que Dieu nous a donné en Israël. Alors que nous marchions dans le pays, nous regardions la ville de Jérusalem, et que nous avons vécu là-bas pour quelques jours. Nous sommes allés à la mer Morte, nous sommes revenus à Jérusalem. Ensuite, nous sommes allés dans l'est à Jéricho, nous sommes allés au nord, à la vallée du Jourdain, à la mer de Galilée, nous sommes allés à l'ouest, à Megiddo, la vallée de Jézreel, la vallée d'Armageddon. Et nous sommes montés de nouveau à la mer de Galilée, à Tibériade. Ensuite, nous sommes allés plus au nord, encore à Capernaum. Là où Jésus avait son quartier général pour la seconde année quand il était sur la terre. Et ensuite, nous étions là à regarder, nous apprenions des choses. Nous avons des dévotions. Pasteur David Stanowski qui est avec nous. Pasteur Drew, Pasteur Frank Corvier, Pasteur Ben et Ramona. Nous étions en tout 77 personnes. Et je pense que dans les mois et les années à venir, nous ferons référence à ce voyage qui nous a permis de comprendre un peu mieux ce que la vie nous enseigne, en considérant les distances, la topographie, les lieux, l'histoire, etc. d'Israël. C'est vraiment incroyable. Et j'aimerais partager avec vous une pensée profonde dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2. Ok, 2 Thessaloniciens chapitre 2, et verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous savez, lorsqu'on pense à l'Écriture, et le travail de Dieu par la foi, avec ces gens, ces enfants, priez s'il vous plaît avec moi, ce matin, que Dieu puisse moindre notre ministère pour les quelques minutes qui vont venir, afin que Dieu parle à notre cœur. Parce que ce que j'aimerais dire, d'une façon très simple, c'est ce que David a dit au Seigneur. Le Seigneur est ma portion, et il est mon héritage. Le Seigneur est ma portion, ma force, et le Seigneur est ma portion sur la terre des vivants. Donc, psaume 16, 5 et d'autres versets. David était un roi, il était un prophète, il était un prêtre. Il n'était pas un prêtre selon l'ordre des Lévites, il était un autre Christ. Il était un peu comme vous et moi, un croyant du Nouveau Testament. On n'est pas de la tribu de Lévi. Et même la plupart d'entre nous, nous sommes des gentils, des païens d'origine. Nous n'avons pas de promesse, pas d'alliance avec nous. Dieu n'est pas venu vers les gentils, il est venu aux juifs. Et le premier juif, c'est Abraham. Et il l'a appelé. Et le mot hébreu veut dire de l'autre côté de la rivière. Et Abraham est venu de l'autre côté, de l'autre rivière. Il est venu de la Mésopotamie. Et Dieu l'a conduit dans un pays que Dieu allait lui montrer. Et Dieu a dit à Abraham, marque dans ce pays, je vais tout te donner. Tout ce que tu vois à droite, à gauche, en haut, en bas. Abraham n'avait pas de fils. Et il a eu Ismaël. Et Abraham voulait que Ismaël, son fils, vive devant Dieu. Et Dieu a dit, non, je vais te donner un fils. À cause de ma promesse, dans ton vieil âge. Et quand il avait 99 ans, un ange est venu et lui a dit qu'à l'âge de 100 ans, l'année d'après, il aurait un fils et sa femme était vieille pour pas avoir d'enfant. C'est un miracle. Parce qu'Israël est unique. Le pays est unique. Le fils est unique. Dieu a donné à Abraham deux choses, le pays et un fils. Et c'est unique. À cause du fait que Dieu donne des promesses. Le pays en lui-même, vous savez. C'est pas terrible, un petit pays. Des montagnes avec quelques vallées vertes. Quelques vallées, pas très larges, un pays petit. Mais parce que c'était connecté avec les promesses de Dieu, alors c'est un champ de bataille. C'est une cible. À travers toute l'histoire, il y a une place où Dieu a décidé de parler aux gens, à travers les alliances, par le temple, par le tabernacle, par le sacerdoce, par les sacrifices, par les rois, par les pauvres habitudes des rois, par les invasions, par les déportations, par le retour dans le pays. Dieu continue de garder ses promesses. Et il y a un mystère de l'iniquité ici dans ce passage, dans 2 Thessaloniciens 2. Quatre fois dans le Testament, nous avons le mot Satan. Satan, dans la Bible, Satan, dans 1 Chronique 21, il dit qu'il a tenté David. Dans le psaume, il dit que Satan se tiendra à la droite des justes. La troisième fois, dans Zacharie 3, 1 et 2, le diable, Satan se tient devant le souverain sacrificateur. Et quatre fois, la quatrième fois, c'était Job. Il a accusé Job devant Dieu, il a accusé Dieu devant Job. Et dans le pays, alors que nous avons marché dans ce pays, et que nous avons vu une petite partie de ce pays, nous avons vu suffisamment des choses qui ont provoqué notre imagination dans le fait de lire la Bible et dans notre pensée. Que Dieu a un plan et il permet que Satan soit dans le plan. Et Dieu fait cela pour une certaine raison. Et j'aimerais que vous suiviez cela avec moi. Donc au verset 7, il est dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc Satan se tenait à côté de David, Satan se tenait avec Judas pour le pousser à trahir Jésus, et ensuite il est allé se pendre. Notre ministère qui a commencé avec une petite église dans l'état du Maine aux États-Unis, notre pasteur qu'on a entendu tout à l'heure. Et donc en pensant à tous ces hommes de Dieu, qui pensaient que nous allons embrasser tout ce que la parole nous dit dans sa parole, et le Saint-Esprit a été fidèle de mettre dans notre cœur des paroles qui ont été dites en Israël des milliers d'années en arrière. Ces mêmes paroles sont en train de parler en eux, travailler en nous, c'est des paroles de foi. Quand Dieu a parlé à Abraham, il nous parle aussi à nous. Et il nous dit, vis par les promesses, je vais te donner un pays. Il a dit à Josué, des centaines d'années en arrière, Josué, peu importe où ton pied touchera, je te le donnerai. Dans Josué 1:3, car je l'ai donné à Abraham avant toi. Maintenant marche dans cela, car c'est à toi. Ça c'est le travail de Christ qui travaille en nous. En Galilée, c'était incroyable lorsque nous étions dans la partie nord, cela m'a affecté, je regardais la ville de Capernaum. Il y a des archéologues qui ont fouillé et ils ont trouvé la ville que Dieu a maudite. Et aucune de ces villes n'est habitée aujourd'hui. Il y en a une, on ne sait pas où elle se trouve, c'est Sada. Bethsada, Chorazin et Capernaum. Car les choses qui ont été faites au milieu de toi auraient été faites à Godom et Somor, selon mes commandements, elles se seraient repenties. Et donc nous étions là-bas, à Capernaum. Ils disent que du temps de Jésus, Capernaum était de 1500 personnes avec une petite synagogue. Et on a pensé au miracle que Jésus a fait là-bas et on pourrait vous donner des exemples. En accord avec l'écriture, bien sûr. Mais des choses qui m'ont vraiment étonné. Les mêmes choses se sont passées en Chine, en Afrique, en Inde. Parce que la parole de Dieu, le travail de Dieu est le même et il est éternel. Et les paroles qui viennent de sa bouche aujourd'hui. Et nous sommes des gens qui sont nés de Dieu. Et dans cette petite place où nous étions, il y avait juste les fondations des maisons de l'ancienne ville. Et c'était vraiment une petite ville, comme un peu plus grande que la taille de notre église. Et c'était habité par des pêcheurs. Et c'est là où il a dit à Pierre, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'homme. Et des gens pensent l'avoir identifié. On était dans les ruines, dans la synagogue. Et nous étions là. Et nous nous rappelions des paroles de Jésus. Quand Jésus a dit à Pierre, va pêcher un poisson et tu trouveras d'argent pour payer ta taxe et la mienne. Et il parlait de la route qui passait par là aussi où Matthieu était assis. Et Jésus lui a dit, suis-moi. Et Matthieu s'est levé et il a suivi Jésus. Et sa vie a été changée. Des paroles de foi, la même puissance, le même esprit, la même vérité. Et Israël est un peu comme une leçon de voir comment Dieu travaille et comment le mystère de l'iniquité travaille aussi. Partout, Dieu travaillait. Partout où Dieu fait son travail, il y a le mystère de l'iniquité qui travaille aussi. Jésus est allé à Jérusalem. Il est allé chaque année, en tant que juif de Galilée, il allait chaque année à Jérusalem. Quand il avait 12 ans, ses parents le cherchaient partout. Et quand il a commencé son ministère public, il est allé à Jérusalem. Et chaque année, il allait là-bas. Et chaque fois qu'il allait à Jérusalem, il avait des problèmes. Chaque fois. Et là, il décrit la ville de Jérusalem. Et nous voyons la tombe d'Absalom. La Bible dit qu'il avait... Absalom, pardon, s'est construit un monument pour lui-même parce qu'il n'avait pas de fils. Et le mystère de l'iniquité travaille. Et cela a vraiment parlé à mon cœur. Il y a le jardin de Gethsémané, et juste à côté, il y a le monument, le mémorial d'Absalom. Et donc, partout où il y a le travail de Dieu, il y a le mystère de l'iniquité qui est avancé. Un jour, le Seigneur va revenir et il instaurera son royaume sur la terre. Mais avant que cela ne se passe, le Seigneur le sait. Le Seigneur devait travailler et marcher dans le plan de Dieu sur la terre. Et la ville de... Et les Juifs auraient vraiment reçu le Messie si Jésus avait parlé de révolte contre les Romains, etc. Mais Jésus n'était pas venu pour ça, parce que la politique est trop superficielle pour son appel. Il y a une profondeur en lui, il y a un mot éternel, une parole éternelle, une vision dans son cœur. Il y a quelque chose de plus grand, comme Abraham qui a dit à Lot, va à droite, moi j'irai à gauche, et tu vas à gauche, j'irai à droite, ça n'a aucune importance. Parce qu'il savait que Dieu lui avait donné le pays. Et quand tu sais la portion qui est Dieu pour toi, tu peux supporter de laisser les gens décider. Ils peuvent vivre leur vie, parce que pour moi et ma maison, nous vivons par chaque parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et il y aura un ministère sur la terre. Et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre ça, et même l'iniquité, même si l'iniquité travaille. La seconde partie de ce verset 7, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et ça parle du Saint-Esprit. Il faut seulement que celui qui le retient, celui qui maîtrise un peu le mal, et il fait cela jusqu'à ce qu'il soit enlevé, et cela va se passer pendant la tribulation, quand le mal aura une autorité extraordinaire sur la terre. Mais pour l'instant, le mal est ralenti. J'espère que vous suivez ça avec moi. Je ne veux pas être très long, mais nous sommes des gens qui aimons la parole de Dieu et nous suivons la parole de Dieu. Donc suivez-moi s'il vous plaît. Donc la troisième partie, c'est au verset 8, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et il anéantira par l'éclat de son avènement. On a trois choses. Le diable travaille. Ça, c'est un bon message pour comprendre la bataille. Le diable travaille. Mais nous savons que le diable est maîtrisé par Dieu. Nous savons qu'Absalom, qui a conspiré contre son père David, et qui a dirigé Israël dans une mauvaise direction, on sait que Dieu permet le travail du mal. Et le Saint-Esprit est en train de contrôler et retenir le mal. Le meurtre, c'est quelque chose de terrible. Le problème, c'est que le meurtre est une des abominations. Comment mentir et semer la discorde parmi les frères. C'est le travail du diable, du malin, du mal, de l'iniquité. Mais il n'y a pas de mal qui ne soit pas assujetti à Dieu. Il n'y a pas d'accident dans ce monde. Il n'y a pas de choses par hasard. Tout est sous l'autorité de Dieu et sa volonté. Et David dit, quand Absalom était en train de prendre son royaume, il savait que le Seigneur était son héritage. Dans 2 Samuel 22, Dieu était sa force et sa portion. Et que personne ne pouvait prendre ça de lui. Et donc, de la même façon, lorsque Christ était sur la terre, il savait que Dieu était sa portion. Et quand il marchait en Galilée, et ça nous a tellement touché. Lorsqu'il était rejeté à Nazareth, à Jérusalem, il est monté dans le nord, à Galilée. Donc, il est resté là-bas pendant une année. Et donc, il est rejeté de là-bas aussi. Et il revient en Judée. Et il est remonté à Jérusalem. Et là, il est finalement rejeté, rejeté et crucifié. Mais le diable est juste sous le contrôle de Dieu. Cela ne peut pas enlever la portion de Christ. Il n'y a aucun mal qui peut nous prendre ce que Dieu a préparé pour nous. Si nous marchons droitement devant Dieu, que nous marchons par la foi, et si nous vivons dans l'abondance de la grâce qui nous a été donnée, si nous apprenons à nous construire nous-mêmes, et si nous apprenons à vivre de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, et si nous apprenons à nous construire ensemble, à nous édifier ensemble, si nous apprenons à vivre dans l'amour qui vient de notre cœur, alors il n'y a pas de mal qui peut nous vaincre, parce que notre état, notre portion, ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Mais le mal est ici comme Pharaon, dans Exode 10, verset 20, qui disait, il a dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Dans Samuel 16, que Dieu a envoyé à Saul, le roi Samuel, un esprit mauvais. Mais un serviteur de Saül a reconnu cela. Et on lui dit, mais comment c'est possible, Seigneur, que tu envoies un esprit mauvais à un homme qui croit en toi? Comment c'est possible que tu envoies un esprit mauvais sur un homme? Et Dieu dirait, j'utilise le mal comme un outil. Et c'est le problème de Saül de marcher avec moi. Et s'il marchait avec moi, ma grâce serait suffisante pour lui. Pensez à cela. 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul dit, que Dieu avait envoyé une écharpe dans sa chair, et que c'était un envoyé du diable qui a été envoyé vers lui afin qu'il ne soit pas orgueilleux concernant les révélations qu'il avait eues de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de commentateurs pensent que c'était vraiment un mauvais esprit qui avait touché l'apôtre Paul. Et nous pourrions, comme nous pouvons aussi poser toutes sortes de questions, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais nous savons qu'un jour le mal va disparaître, mais il y a un temps où Dieu prépare une table en face de nos ennemis. Et ça, c'est un temps maintenant où nous devons être remplis de l'esprit, nous marchons par la foi et nous croyons Dieu, et les démons sont sous nos pieds. Cela aurait pu aussi se passer avec Saul, avec Saül. Et donc tout ce que Dieu fait comme ça, c'est la façon dont Dieu dirige les choses. Parce que Saül aurait pu aussi résister à ce démon, à s'humilier devant Dieu. Comme nous résistons au diable aussi, et les démons sont sous nos pieds. Dieu donne dans chaque 4-6 une grâce plus excellente au humble. Quand j'étais en Israël, je pensais que Dieu est tout puissant, et nous pensions aussi que le diable aussi était là en train de travailler. Vous vous souvenez que les juges construisaient les tombes des prophètes qu'ils tuaient. Et je tremble dans mon cœur, et je dis Seigneur, nous voyons ton travail, et nous voyons le travail de la déception, nous voyons le travail de la vérité, et nous voyons le travail de l'orgueil, nous voyons le travail de la grâce, et nous voyons le travail de l'incrédulité, nous voyons un homme de Dieu, et nous voyons un faux prophète, un faux apôtre, et le travail de l'incrédulité et de l'orgueil dans le cœur humain. Nous disons, Seigneur, quand cela va-t-il s'arrêter? Et la réponse est quand le Messie va revenir. Et donc, nous vivrons avec le Seigneur pour l'éternité remplie de l'Esprit. Et nous dirons sans cesse Amen dans notre cœur. Et nous dirons, oui Seigneur, par la foi, tu as fait toutes ces choses, détruit les murs de Jérusalem, tu es le Dieu de Jacob, d'Abraham, tu es le Dieu de Christ qui nous a montré qu'il n'y avait pas de place pour lui sur la terre, partout où il allait. Il parlait, il guérissait, ils l'ont suivi, mais à la fin ils l'ont rejeté, et à Jérusalem, il est mort de cette mort terrible. Mais Dieu, le Père, l'a ressuscité, il lui a donné la victoire sur toutes choses. Et un royaume est en train de venir, un royaume où il n'y aura plus de mensonges. Il n'y aura plus rien du tout, mais il y aura la puissance que nous pourrons tester aujourd'hui. Et nous serons remplis de l'Esprit, nous vivrons par la foi, et nous suivrons le Seigneur, et nous tournerons ni à gauche ni à droite. Et nous verrons que le Seigneur est bon. Et nous verrons et nous testerons que le Seigneur est bon. Et nous verrons une maison qui n'a pas été construite de main d'homme, mais une maison qui a été construite par Dieu lui-même. Et le Seigneur va revenir poser ses pieds sur Jérusalem, poser ses pieds sur le monde des oliviers, pardon. Comme nous n'avons pas suivi une foi que nous avons inventée, mais nous suivons une foi que nous étudions. Quelque chose que nous avons dans notre cœur. Et le groupe, lorsque nous étions en Israël, nous avons eu vraiment beaucoup de joie. Et nous étions sur le bateau de Galilée. Et nous avons pris des temps de prière le soir, le matin, la présence de Dieu était là tellement forte. Et on ne voulait pas aller. Et nous sommes allés, nous avons visité tous ces endroits. Et peut-être, je voulais aller en Israël depuis longtemps. Mais je voulais soit vraiment Dieu qui me conduise. Et ça a été un temps extraordinaire. Et ça a été plus qu'Israël. Ce n'est pas juste un pays, c'est un royaume. Et maintenant, nous sommes ici. Et nous sommes dans un royaume qui n'est pas un royaume humain. Et là, il parle de tous les endroits. Nous avons une église dans Maryland. Il parle de l'évangélisation. Parce que c'est la même chose que là-bas en Israël. Comme cette petite ville de Capernaum, avec 2000 personnes, 1500, 2000 personnes, des gens qui rencontrent le Messie. Et Jésus qui dit, Pierre, suis-moi, et je ferai de toi un pécheur d'homme. Et quand ces mots sont parlés en Chine, hein, des Chinois, comme d'autres personnes, suivent Jésus. Et je vais le suivre, et je vais le suivre. Et le Saint-Esprit fait la même chose en Chine qu'il fait sur la mer de Galilée. On a eu un appel téléphonique de Hongrie qui nous raconte tout le travail que Dieu fait là-bas, et en Afrique, en Argentine, et partout dans le monde. C'est le même royaume. Et bien sûr que le mal fait son travail. L'iniquité travaille aussi, mais c'est ok. Parce que si le Seigneur est mon héritage, j'ai rien à voir avec l'iniquité, avec les démons et les mensonges et toute l'articulation des philosophies qui essayent de voler mon héritage. Parce que mon héritage est par la foi dans le Seigneur. Et si nous sommes, nous t'aimons maintenant. Je suis tellement heureux. Nous sommes partis de ce pays. Nous sommes des gens privilégiés. Nous avons des millions de détails, des choses, des biographies, des alliances. Nous sommes tellement riches dans notre foi. Et j'aimerais aller partout et dire, avez-vous entendu dire d'Abraham, les Égyptiens ont bâti leurs pyramides, les Juifs ont leurs prophètes. Connaissez-vous la réponse qui est contre le diable? Et sans Christ, vous n'avez que le jugement. Mais avec Christ, nous sommes les gens les plus riches du monde. Nous sommes les gens les plus heureux du monde. Nous sommes les gens les plus bénis. Nous sommes les gens de Dieu. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Seigneur, nous attendons maintenant pour ton retour. Merci Seigneur. Amen. Priez avec moi s'il vous plaît.